Notre Père céleste, nous venons à toi ce matin pour t'adorer et pour reconnaître que c'est un honneur et une joie que nous avons d'être en mesure de te parler. Tu as promis nous exaucer et donner des réponses à nos requêtes. Tu nous accueilles à ta présence tout comme un père accueille ses enfants et c'est pourquoi nous sommes contents et en joie. Nous te disons merci pour tes bontés qui sont visibles et qui se sont manifestées dans nos vies dans le passé. Merci pour avoir préservé notre Église qui a passé par des moments difficiles parce que tu nous gardes. Merci Seigneur, nous nous réjouissons parce que tu permets à l'Église de continuer par croître. Il y a d'autres qui sont venus par eux-mêmes, il y a d'autres personnes qui se sont ajoutées parce que les enfants qui sont nés, Seigneur, nous n'avons rien fait, mais c'est toi qui as fait tout. Nous te prions que tu continues par nous fortifier, nous encourager dans notre foi, afin que nous soyons des témoins pour ton peuple et également des témoins pour ceux qui sont en dehors de Christ. Nous prions pour l'œuvre que nous soutenons dans divers pays et à travers diverses organisations. Merci pour ce qui se passe en Corée et nous prions que tu puisses les fortifier comme nos partenaires continuent par bâtir et installer des églises, pas les églises en anglais, mais des églises en japonais. Et nous te disons merci pour le terrain qu'ils ont pu acquérir. Et nous demandons que tu leur donnes la grâce à continuer par s'installer. Nous prions que tu les bénisses et que tu bénisses leur prédication, le ministère et que tu bénisses l'œuvre qu'ils accomplissent. Nous prions, Seigneur, pour l'œuvre au Togo. Merci pour les grandes opportunités que nous avons de nous connecter. Nous prions pour les prédications en français qui leur sont envoyées chaque semaine. Nous prions comme ces sermons sont traduits, interprétés, que tu les bénisses afin que, à travers ces sermons, que les hommes te connaissent et écoutent ta parole. Nous te disons merci pour Prosper et son œuvre. Nous prions que tu continues par bénir ses efforts et qu'il continue par rendre disponibles ses prédications en français. Nous prions que tu sois avec nos dénominations, dans notre presbytère et dans cette église particulièrement, que tu nous rendes zélés pour la vérité, que tu nous aides à détester le mensonge, à nous détourner du péché, et que non seulement en étant des auditeurs, mais à travers notre dénomination et à travers le royaume de Christ, que nous ayons la passion pour la vérité et également le désir et la soif de vivre dans la sainteté. Nous prions que tu nous sois miséricordieux envers nous, comme nous continuons à soutenir les œuvres dans l'école théologique de Greenville. Nous demandons que tu puisses soutenir ceux qui sont là-bas, ceux que nous soutiennent. Comme nous voyons déjà, nous reconnaissons qu'il y a des difficultés, des défis pour les hommes qui sont conservateurs, qu'ils trouvent des pupitres pour prêcher. Mais nous prions que tu puisses susciter la faim pour la vérité et que ces frères, quand ils vont terminer leur étude, quand ils vont retourner dans les différents pays, que tu ouvres des portes d'opportunités pour le ministère et que tu amènes les hommes et les femmes à croire et que tu permettes à ce que l'Église puisse prospérer. Nous prions, Seigneur, pour notre pays, comme les élections arrivent, pas seulement que nous avons de l'espérance en quelqu'un qui va apporter l'aide et le salut à notre pays. Nous avons essayé, nous avons eu confiance en cela pendant longtemps, mais nous avons trouvé que nous avons été vraiment bleuis. Nous savons que c'est toi, que dans ta souveraineté, tu peux permettre à ce que la bonté va dominer. Nous prions que tu nous donnes des politiciens qui aiment le Seigneur Jésus-Christ et qui puissent rompre avec le péché du passé. Nous prions que tu puisses remplir ton Église à travers ce pays avec des hommes qui aiment Christ et qui tiennent debout pour Christ. Nous prions que des familles soient nourries et que les hommes puissent regarder notre Église de dehors et qu'ils voient ce que tu es en train de faire. Nous prions que cela puisse être le jour où ils vont voir tes mains et ils vont avoir soif de ta parole. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui sont dans notre congrégation, qui souffrent avec des maladies, qui luttent avec des maladies, certains avec des allergies et autres. Nous prions que tu leur donnes la guérison. Nous prions spécialement pour Stephen Douglas qui a des choses à faire avec son cœur. Nous prions comme il est entre tes mains, que tu le protèges, que tu le gardes et que tu le guérisses. Nous prions pour nos enfants, qu'ils grandissent et qu'ils t'aiment et qu'ils te suivent. Nous prions pour les parents, toute la congrégation, comme nous avons décidé à pouvoir éduquer nos enfants, que tu puisses nous aider à les encourager. Nous prions pour ceux qui sont dans notre congrégation, pour ceux qui ont quitté la voie du Seigneur. Ils se sont éloignés encore et encore. Tu nous amènes à revisiter les récits du fils prodigue. Nous savons qu'ils sont, ils ont quitté la foi, ils se sont éloignés de l'église, mais nous n'avons pas de pouvoir sur eux. Mais nous savons que toi, tu as le pouvoir sur eux. Si tu veux le faire, Seigneur, amène-les à détester le péché. Crée en eux le désir de t'aimer. Donne-leur le don de repentance. Ramène-les à la maison, pas dans leur famille simplement, mais également dans l'église pour qu'ils te connaissent, toi le Sauveur. Nous te disons merci parce que tu nous as gardés, tu nous gardes, tu nous aimes, tu prends soin de nous. Nous te disons merci parce que nous sommes en mesure d'adorer. Et comme nous sommes là au moment de la prédication de ta parole, nous demandons une fois encore que tu nous donnes la lumière, que tu nous illumines afin que nous puissions comprendre ta parole et que sa parole nous change. Nous demandons cela au nom de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre passage aujourd'hui de l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 35 jusqu'au verset 51, je vais lire le passage et après nous allons voir l'explication de ce passage. Jean 1, écoutez la parole de Dieu, s'il vous plaît, veuillez vous mettre debout. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se tournant et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous ?» Et ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie « Maître ». « Où demeures-tu ?» « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon, Pierre, qui était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus, ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu ?» lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » S'il vous plaît, veuillez vous asseoir.
«
Le passage que nous considérons aujourd'hui couvre le début du choix des disciples par le Seigneur Jésus-Christ. Cela nous permet de voir quel était son objectif. Et comme nous considérons ce passage, j'ai trouvé que c'est intéressant quand nous sommes en train d'étudier le livre d'Ézéchiel les dimanches nuits, nous voyons un rapprochement entre les deux, un lien entre les deux. Cela ne doit pas vraiment nous surprendre parce que toute la Bible concerne le Seigneur Jésus-Christ, parle du Seigneur Jésus, le plan de Dieu, le programme de Dieu. Et alors, il y a des similarités ici et là parce que c'est la même chose, c'est le même livre. Et comme nous voyons ceci, Ézéchiel qui a été mis à part pour le ministère, nous voyons ici le Seigneur Jésus-Christ qui appelle des hommes pour qu'ils viennent se mettre dans le ministère. Verset 35 et le verset 36. Suivre Jésus, c'est le considérer comme le seul et vrai sauveur. Verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Christ, dans le verset 34, avait été appelé le Fils de Dieu et il était, il est et il sera toujours. Dans ce passage devant nous, non seulement nous reconnaissons qu'il est le Fils de Dieu, mais il est Dieu lui-même qui a pris la forme humaine et il est capable à travers ses œuvres de sauver ceux qui doivent être sauvés. Et c'est Dieu seul en une personne qui peut être en mesure de satisfaire, c'est Jésus seul qui peut satisfaire les exigences de Dieu. Et la petite phrase là-bas rappelle qui Jésus est et comment nous aussi nous pouvons être justes devant le Père. Pourquoi est-ce que c'était nécessaire que Christ puisse prendre la chair humaine? C'était important parce que un simple homme ne peut pas remplir les conditions exigées par Dieu et substituer, faire la substitution pour notre salut. Il faut que ça soit quelqu'un qui soit Dieu et en même temps humain. Et donc le Fils de l'homme qui est le disciple, et cela est affirmé clairement dans la session suivante où nous allons voir qu'on se réfère à lui comme l'agneau de Dieu. Jean chapitre 1 verset 29. Jean 1 verset 29, la Bible dit, le lendemain il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà, nous avions déjà vu ce passage, mais à un moment donné nous voyons cette portion de passage qui nous rappelle qui Jésus est, comment il est l'agneau de Dieu. Quel est alors cet agneau? L'agneau de Dieu, oui, l'agneau. Il y a plusieurs explications qu'on peut avoir de l'agneau. Il y a l'agneau pascal dans le chapitre 12 et également en 1 Pierre chapitre 1 verset 19, la Bible dit que le sang précieux de Jésus qui a été versé, mais pas le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, dans Nombre chapitre 28 verset 4, tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. Donc c'était l'agneau qui était fait dans le sacrifice quotidien. Et l'agneau dont Esaïe parle, et quand il parle de nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retourner sur lui l'iniquité de nous tous. Et il a été maltraité, opprimé, et il a gardé le silence. Il n'a même pas ouvert sa bouche. C'était la volonté de Dieu. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Donc Christ dit que c'est l'agneau pascal. Il était celui qui a été brisé, qui était tué à cause du fait que nous étions des pécheurs. Notre mort ne pouvait pas satisfaire la colère de Dieu, mais Christ qui est avec nous, qui nous soutient, qui ne change pas et qui à travers sa sainteté, la vérité, c'est lui qui est Dieu et humain. Il est capable de sauver ce qu'il voulait sauver. L'agneau, il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Nous devons comprendre que ce n'est pas tout le péché. Il y a des phrases que nous lisons. Quand nous disons il ôte le péché du monde, alors nous disons que tout le monde qui commet le péché est libre. Vous pouvez aller au ciel, quel que soit le péché, quel que soit ce que vous pensez, quel que soit ce à quoi vous Non, il ne fait pas la promotion de l'universalisme en ce moment pour dire que le chemin vers le ciel est là. Non, mais il nous rappelle que c'est l'agneau, que le péché de toutes sortes, le péché par tout le monde, par quiconque est possible d'être pardonné si nous nous tournons à lui. Et contrairement à l'effort des Juifs qui luttaient avec la théologie, qui disaient oui, le ciel est vrai, mais c'est les pharisiens qui croyaient en ça, les sadduciens ne croyaient pas en cela, et donc c'était bizarre quand même. C'était comme cela que cela se passait. Donc c'est la même chose que nous avons des gens de nos jours qui sont religieux mais qui ne croient pas au salut qui est là quand on leur dit de mettre leur foi en Dieu. Mais Jean ne propose pas une forme d'universalisme, non, il ne fait pas ça. Le Seigneur Jésus-Christ ne soutient pas depuis le premier chapitre, à partir du verset 12 et le verset 13, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ceux qui sont nés, non pas de la volonté des hommes, mais ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Comment est-ce que nous sommes nés de nouveau? C'est parce que nous venons d'une famille déterminée. Non, c'est pas parce que nous sommes sauvés parce que nous appartenons à telle ou telle famille. Nous sommes nés de nouveau parce que nous avons accepté Christ. Dieu nous a choisis, il nous a amenés à croire, il nous a apporté le salut. Alors l'agneau de Dieu, c'est une phrase qui devait être bien comprise par les disciples. L'agneau de Dieu, les disciples devaient comprendre que c'est quelque chose qui était très important à comprendre, et ils devaient être familiers avec le concept de la substitution. Il y a des choses, et la forme de Christ, même après le départ de Christ, ils ont compris certainement beaucoup de choses concernant le sacrifice, concernant l'agneau de Dieu. Et comme notre passage commence et dit, voilà ce que vous cherchez, voilà la réponse à notre problème de péché, c'est l'agneau de Dieu. Verset 37 maintenant. Jean 1, verset 37. Suivre Jésus, c'est croire en lui. Verset 37, c'est être son disciple. Verset 37. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retournant et voyant qu'il le suivait, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui. Ce jour-là, c'était environ la 10e heure. Qu'est-ce que vous dites? C'est comme si nous voulons aller voir ce qu'il fait. Il a l'appartement, il a une nouvelle maison. Nous voulons aller voir ce qu'il est. C'est pas ce que les disciples cherchaient. C'est pas la maison. Il ne dit pas que où est ton hôtel, où est ta maison, où est-ce que tu demeures. Ce n'était pas l'objectif de leur question. Ils voulaient savoir où vis-tu. Et c'est un peu comme l'école dans les prophètes de l'Ancien Testament. Ce n'était pas comme au temps d'Élie et Élisée, qui étaient des hommes élevés dans la société, qui étaient formés pour être des prophètes. Mais ils lui ont posé la question, où demeures-tu? Ce n'était pas difficile à comprendre. Et c'était une invitation qui était là. Ils voulaient que Jésus puisse leur dire que voilà là où je suis, venez apprendre, venez que je vous enseigne. Donc comme Jean-Baptiste avait présenté Christ comme le meilleur, ils voulaient naturellement savoir où ils devaient se rassembler. Ils devaient être formés, ils devaient être des disciples. Jean-Baptiste a dit, voilà celui dont on parle, vous devez le suivre. C'est comme si mon tour est fini, il faut le suivre. Il voulait être avec lui. Ce n'était pas un concept qui est terminé avec Christ. Nous savons que dans 2 Timothée, il nous rappelle de comment nous devons faire le travail. C'est Paul qui parle à Timothée, ce que tu as entendu et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Il dit, ce que je vous ai enseigné, ce que je t'ai enseigné, Timothée, permet à ce que d'autres personnes puissent l'enseigner à d'autres, des hommes fidèles, et qu'eux aussi puissent enseigner d'autres personnes, afin qu'eux aussi puissent enseigner à d'autres personnes. Donc, ils sont venus poser la question, où vis-tu? Où demeures-tu? Est-ce que nous pouvons être là-bas? Est-ce que nous pouvons apprendre de toi? Alors, Jean leur a dit, vous êtes grands, il faut aller, il faut suivre Jésus. Et Jean-Baptiste a fait cette œuvre pour l'Église et pour ses disciples. Il a accompli un ministère. Il a dit, où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous demeurez? Venez et voyez. Et donc, les disciples avaient commencé une forme de formation, pas comme la théologie qui est à Greenville ou bien une école théologique dans le monde, mais ils étaient formés pour... Le professeur était celui qui était très disponible. Ils ont suivi une formation, ils ont compris ce qu'ils devaient avoir comme connaissance. Ce n'est pas comme les gens qui vont dans les écoles théologiques, et c'est très évident de voir les dirigeants religieux qui vont amener les gens à être formés, et ils vont leur dire ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont boire. Et comme ils voyagent, vous avez lu le Nouveau Testament plusieurs fois, vous avez lu beaucoup de ces choses, ce qui avait été donné aux disciples comme instruction. Alors, ils ont cherché à devenir ses disciples, ils ont suivi une formation qui couvrait tous les aspects de la vie, et vous pouvez voir beaucoup de ces choses-là qui enseignent sur le gouvernement, sur la théologie, sur les sacrements, sur la révélation, sur la rédemption, sur la vie et l'obéissance à la loi, la sanctification. Et tout ça là a amené les disciples à changer leur manière de percevoir les choses, et cela a changé leur style de vie. Et ces choses ont été mises en place pour leur formation et plus tard pour la nôtre. Pour que nous puissions être fidèles, nous aussi, en écoutant ces mêmes choses, comme nous lisons les Écritures, en venir à la grâce salvatrice. Et comme Dieu a promis, il a dit, qui est-ce que vous cherchez? Il n'a pas dit qui vous cherchez, mais qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Ce n'est pas qui, mais quoi que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Ça serait ce qui va nous amener à avoir la foi en Dieu. Et comme nous parlons de notre catéchisme résumé, petit catéchisme, la question 34 nous rappelle d'un certain nombre de choses. Il nous parle, le chapitre 34 nous parle de l'adoption. Nous sommes reçus dans le nombre et avons droit à tous les privilèges des fils de Dieu. La rédemption qui est acquise par Christ, l'Esprit nous a appliqué à la rédemption rachetée par le Seigneur Jésus-Christ en opérant la foi en nous et nous unissant ainsi Christ dans notre appel effectif, nous amène à avoir le pardon de nos péchés. Pas parce que je suis une bonne personne, mais parce que Christ l'a accompli, la sanctification. Ces choses là que les disciples devaient accepter et apprendre leur ont été transmises. Comme ils ont commencé avec Jésus étant des disciples, et ils ont continué à apprendre, et ils ont vu le Sauveur qui est ressuscité, et les disciples, les apôtres qui ont enseigné la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce fondement posé, l'Esprit nous rend capables de répondre à son appel. Ils ont été tirés de Jean, ils ont été commissionnés pour accomplir la tâche qui est mise devant eux, pour suivre Jésus. Et ici, c'était également pour attirer d'autres personnes. Ça veut dire que nous ne voulons pas parcourir ceci sans savoir la tendance, les mêmes choses qui se passent ici, ici, ici et là, même lorsque nous ne voulons pas rater quoi que ce soit dans notre propre vie, dans notre église, quand nous voyons l'œuvre de Dieu qui est la parole de Dieu qui est prêchée à tel pays, à tel milieu, nous ne voulons pas dire que non, nous n'avons pas parcouru et ne pas faire attention à cela. Ce passage appelle les hommes à être des disciples, à savoir qu'est-ce qui va arriver dans la plupart des cas immédiatement après l'appel à suivre Christ. Qui sont ceux qui étaient les deux qui ont suivi Jésus? C'est André, mais la deuxième personne n'a pas été mentionnée par le nom. Mais la plupart pensent que c'est Jean, parce que Jean l'a fait à plusieurs endroits, plusieurs reprises, et là, on dit que c'était lui qui se reposait sur la poitrine de Jésus. C'est comme on n'a pas mentionné son nom. Et il n'avait pas eu le désir de s'élever. Son nom n'était pas mentionné. Mais celui qui était avec Philippe, c'était André, le fils, le frère de Simon-Pierre. Il a trouvé son frère. Il a dit, nous avons trouvé le Messie. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui raconta le premier son fils, son frère Simon. Il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Pierre était connu plus que son frère André. André, on ne parle pas de lui beaucoup dans les Écritures, mais il y a quelques avantages que l'Église a eu depuis les siècles qui viennent de ce qu'André a fait. André a dit, ah, Pierre, tu dois rencontrer cet homme-là. Pierre était un grand homme, un apôtre fidèle qui est connu pour son utilité au royaume. Il est également connu pour ses traits caractéristiques personnels. Et Nathanaël également. Pierre a été trouvé par André, Philippe a été trouvé par Jésus et a ensuite trouvé Nathanaël. Voilà, ça c'est une partie de ce que j'aime par rapport aux disciples là. Comme Nathanaël a été appelé et que Jésus lui a parlé, Jésus lui a dit, je t'ai vu sous le figuier. Nous ne savons pas ce qui était dit quand nous étions en train de grandir. Vous savez, la réponse qu'il a donnée, c'était comme il te demandait, quoi? Tu dois être Dieu. Si tu sais ce que je pensais, ce que je demandais, ce que je faisais, alors tu dois être Dieu. Alors Nathanaël a été saisi par la puissance de Dieu qui a été déployée à travers. Donc Nathanaël a dit que personne ne l'a vu là-bas, mais il a suivi Jésus. Suivre Jésus est une invitation qui est toujours la même et peut-être qui ne change pas. Jésus-Christ, André l'a amené à Jésus et le message est que Jésus sauve, que Dieu, par son décret éternel, a choisi qui, c'est-à-dire tous ceux qui croiraient et qu'il a fait entendre et comprendre l'évangile, qu'il a amené les hommes à croire. Il sauve par sa personne qui il est. Il est Dieu et homme, capable de satisfaire les exigences du Père et de répondre à la culpabilité. Il sauve par ses œuvres, par son obéissance à la loi. Il a plu au Père. La méthode consiste toujours à communiquer l'évangile de la manière qui a le plus d'espoir d'être comprise. Ce n'est pas compliqué. Ça voudra dire que lorsque nous suivons les disciples, il y a toujours des changements, il y a toujours des manières différentes de voir les choses. Jésus-Christ a approché d'une manière différente la femme qui était au puits. Il a eu une autre approche avec la femme qui était arrêtée en flagrant délit d'adultère. Et d'une autre manière, donc dans toutes ces conversations, avec toutes ces personnes, il y avait l'évangile du Seigneur Jésus qui était au centre. Alors, l'application est individuelle et elle doit être une application de la vérité de la parole de Dieu. C'est-à-dire que vous devez venir à Christ. Vous devez venir à Christ. Et ceux qui l'ont fait, nous voyons que ce qui est dans le programme, Jésus ne s'était pas assis pour dire que c'est fini. Moi, je l'ai eu, c'est fini. Vous devez mémoriser ces trois pages pour que vous parliez de l'évangile. Vous devez faire ceci. Vous devez demander une prière spéciale et que vous devez faire ceci. Vous devez être baptisé. Alors, vous devez donner les dîmes et que vous devez faire quel que soit ce que les gens font dans les églises pour avoir la faveur du prédicateur et l'aide et les anciens et les diacres. Non, mais quand le verset 40, quand nous voyons encore les quatre premiers, par exemple, qu'est-ce qui se passait dans leur pensée? Dans le verset 40 et 42, nous avons vu André. Verset 40, c'était André, le frère de Pierre. Le frère de Pierre, il était celui qui était venu, on le voit comme Pierre était vu comme le frère de Pierre, il est celui qui était avec lui. Le Seigneur sauve son peuple. André devait, il est considéré par beaucoup comme le plus grand service qu'un homme ait accompli. Jean chapitre 12, nous savons qu'André était la personne à qui l'on s'adressait lorsqu'on se demandait qui pouvait venir voir Jésus. Bien sûr, la réponse était celui qui me suit. Dans le chapitre 12, on demandait qui a le plus grand homme. C'était lui qu'on a appelé. Et il y avait cette propagation extraordinaire du christianisme dans les premiers siècles qui résulte de l'accomplissement de notre devoir d'amener les hommes à Christ. Il devait continuer à développer une forme de christianisme qui devait amener les hommes à s'intéresser à faire ce que nous faisons. Mais nous devons nous rappeler que quand nous venons par la foi en Christ, cela doit être des choses naturelles. Ça ne va pas être difficile à communiquer avec quelqu'un concernant l'évangile et le besoin, ce qu'ils doivent dire à leur famille, à leurs voisins. Ils doivent témoigner. Il faut leur dire que je suis venu à Christ, voilà ce à quoi ça ressemble, ce à quoi je crois, voilà. Alors vous devez le faire, ils doivent le faire. Lorsque Pierre a été amené devant le Sauveur, il a été identifié par Jésus, pas celui qu'il était, mais ce qu'il va devenir. Il a dit, tu es Pierre, tu es Simon, je vais t'appeler Pierre. Ça, c'est ce que tu vas devenir, qui est important, qui est bon. Pierre a connu beaucoup de tentations, mais il a trouvé la grâce. Et nous aussi, comme nous suivons Christ, il y aura les tentations, mais nous allons voir la grâce. Nous n'allons pas voir le péché, mais nous allons voir la grâce qui est avec nous. Pierre, il a été tiré, il a été appelé et il a commencé par travailler. Philippe, le jour prochain, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, la troisième personne, et il répondit, Philippe, il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaida, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Alors, Philippe, considéré très bien, il semblait comme il était un homme ordinaire, il avait un nom grec, mais quelles que soient ses limites, nous spéculons, Dieu est servi de sa banalité, et pourtant, il est allé vers Nathanaël. Et il est allé parler à Nathanaël. Son message était solide. Jésus est l'essence même de l'Ancien Testament. Il était comme Moïse, en ce sens qu'il voyait le Christ à travers la loi et les prophètes, tout comme Moïse. Il est là. Philippe, maintenant, a trouvé Nathanaël. Ça, c'est la quatrième personne. Il a dit, nous l'avons trouvé. Philippe raconte Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Donc, la réponse qu'il a donnée, peut-il, c'était une question. Philippe répondit, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Est-ce que quelque chose de bon peut venir de Houston? C'était comme le son de la voix va dire, rien de bon ne peut venir de Houston. S'ils étaient bien, ils ne devaient pas être là-bas. Rien de bon n'est venu de Nazareth. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des occasions où, ici, ce que la Bible dit, la Bible n'a rien dit concernant le Messie qui vient de ou bien qui est connecté à Nazareth. C'était tout ce qui a été dit là-bas. Il n'était pas en train de faire du mal à ce nom. Ce n'est pas dans ce passage, mais ce n'est pas ce que nous recherchons pour déterminer si ou si. Non. Mais il y avait une autre chose. Rien n'a été dit, mais c'était clair que le miracle est si évident qu'il suscite sa profession de foi. Il dit que tu es mon Dieu, tu es Seigneur. Ça, c'est vraiment attrayant, c'est vraiment captivant. C'était un appel qui nous rappelle que Dieu connaît nos cœurs et c'est important. Ce témoignage vivide nous amène à comprendre que c'est ce que Dieu est, celui que Dieu est, et ce qu'il fait. Et voilà comment il dirige son église et ses disciples. Voilà ce qui se passe lorsqu'il y a la transformation dans le cœur et dans la pensée des hommes. Vous n'avez pas besoin de les forcer, de les pousser, de frapper les gens pour qu'ils puissent mener la vie selon Dieu. Cela, ils viennent de mondes bizarres, ils vont trouver des difficultés à comprendre des concepts et à savoir ce qui est juste et là où le péché commence. Alors, ils doivent être encouragés à chercher la sainteté, à chercher à être fidèle à Dieu. Et c'est ce qui se passe lorsque le cœur est transformé, est changé de cœur de pierre en cœur de chair. Alors, Nathanaël se rappelle ce qu'il a vu, a dit en présence de Jésus. Il arrive un moment où les personnes qui se sont lancées dans la religion, c'est-à-dire la recherche de Dieu par l'homme, reculent soudainement. Ils pensent, supposons que nous l'avons vraiment trouvé. Nous n'avons jamais voulu en arriver là. Pire encore, s'il nous avait trouvé, c'est donc une sorte de Rubicon. On le franchit ou on ne le franchit pas. Heureusement, il n'est pas nécessaire que notre motivation soit parfaitement intéressée pour que nous poursuivions notre quête de Jésus. À proprement parler, il n'existe pas de motivation absolument pure de ce côté du ciel. Mais la question de Jésus est une question solitaire. C'est une question qui nous interroge à chaque étape de la vie. Il a l'habitude troublante de nous confronter à cette question à chaque nouveau carrefour de l'expérience. Que veux-tu? Que voulez-vous? C'est ce qu'il a posé comme question. Sachez que Jésus ne les presse pas de répondre immédiatement, mais il leur donne l'occasion de passer du temps avec lui avant de s'engager. C'est une leçon que nous devons apprendre. Chacun des quatre cas de réponse que nous avions lu, chacun des quatre cas que nous avons étudiés et dont les détails ont été donnés dans ce passage sont différentes et Jésus-Christ a eu une approche différente de tous ces différents quatre cas, ce qui reflète sans aucun doute l'affirmation de ce qu'il savait qui était en l'homme. Il était sensible. Jésus était sensible à cela. Il leur rappelle de la vérité. Chaque disciple potentiel est un individu auquel il faut s'adresser d'une manière unique et distincte. La loi, les méthodes et l'évangélisation personnelle peuvent fournir des outils utiles, mais l'application doit être individuelle dans chaque cas. La pertinence de ces paragraphes pour notre expérience, les paragraphes là dans les Écritures ne peuvent pas se retrouver dans une description que nous pouvons mettre dans une formule, mais nous savons que Christ l'a fait avec chacun des quatre. Il est venu de différentes directions. Il a parlé à quatre différentes personnes. Il a utilisé seulement le même langage. Il a dit « Suivez-moi ». Et quand vous vous rappelez cela, nous nous réjouissons qu'il continue à le faire et les âmes converties, c'est des hommes et des femmes qui ne peuvent pas résister à embrasser, à accepter la volonté de Dieu en parlant aux hommes concernant leur âme et leur besoin d'avoir confiance en Dieu pour leur salut. Nous avons passé beaucoup de temps en parlant de ces premiers chapitres. Nous avons alors vu beaucoup ce que nous avions compris, que la parole est devenue chair et puis en lui était la vie. Il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Le salut n'est pas la volonté de l'homme. Le salut n'est pas quelque chose que nous tirons et que nous faisons et que nous appelons à la distance. Mais ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose et que Christ dit que tu as payé le prix et que tu es bon. Non, Jean a transmis le travail, l'œuvre à Jésus. Jean-Baptiste, Jésus a commencé à former ses disciples qui deviendront par la suite ses apôtres. La révélation de l'évangile commence à prendre forme dans ces premiers versets du livre de Jean ici. Voilà ce que nous avons fait, l'évangile. Ça, c'est où nous sommes. C'est un témoignage merveilleux de l'œuvre de Dieu et de son œuvre dans l'Église. C'est comme nous regardons l'Église et nous disons, « Ah, j'aurais bien voulu être au premier siècle et que là-bas, c'était bon, c'était vraiment facile à adorer. » Non, non, non. Il y a des gens, il n'y a pas de différence. Mais ce que nous avons comme rappel, Dieu nous appelle à l'œuvre de l'Église. Il veut que nous parlions de Christ. Il veut que nous puissions être le moyen par lequel d'autres vont connaître Christ. Alors, il nous appelle à demander, à amener les gens à croire qu'il en soit ainsi et qu'il soit agréable à Dieu de faire de nous des gens fidèles maintenant et jusqu'à ce qu'on se rencontre au ciel. Prions. Notre Père Céleste, nous te disons merci pour ces frères que nous avons considérés, dont nous avons appris beaucoup de choses, et nous te donnons la louange. Nous prions tes bénédictions pour les jours de maintenant et à venir. Aide-nous à être fidèles et à parler clairement, et que ton esprit puisse rendre les efforts que nous fournissons efficaces. Nous demandons tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen.